chapitre 16. Je suis réveillée. Je relève brusquement la tête. Mes yeux s'ouvrent d'un seul coup, mais je suis aussitôt désorientée par le fait que je ne vois rien. Je suis dans le noir. Un noir profond et impénétrable. Un sentiment d'urgence m'envahit. Fuir ou se battre. Il faut que je me batte, mais... je n'y vois rien. Rien du tout. En haut, en bas, à gauche, à droite, je n'ai aucun repère. Je me sors les yeux de la tête comme si ça pouvait changer quelque chose. Et j'analyse la situation. Je me trouve dans une chambre. Je suis étendue de tout mon long sur un matelas sans drap et je porte une sorte de nuisette soyeuse. J'ai les bras nus et les deux poignets pris dans des anneaux métalliques froids. Des menottes. On m'a menottée, les mains devant moi sur le ventre. Et ces menottes semblent attachées à une sorte de longe, peut-être une corde, peut-être une chaîne. Mais il me suffit de tirer légèrement pour sentir une résistance. Je ne suis pas seulement ligotée, je suis attachée au plafond ou à un point en hauteur sur le mur. Quant à l'obscurité, je cligne des yeux. Rien. J'essaye encore. Toujours rien. J'ai les yeux ouverts. Pas de bandeau. C'est la pièce elle-même. Aveugle. Et très probablement peinte en noir goudron pour qu'aucun ray de lumière ambiante ne puisse percer les ténèbres. Je me demande si je suis sous terre et, bien malgré moi, mon pouls s'accélère. Ma respiration devient saccadée. Pas sous terre. Pas ensevelie. Pitié, pitié, pitié. Un instant, d'autres images me reviennent. Des scènes du passé. Dans une autre vie, un autre cauchemar. Je voudrais hurler, crier, implorer. Frapper du poing les parois en bois, marteler le socle de mes talons comme une forcenée. Allongée sur ce matelas où je suis prise de tremblements, je me mords la lèvre et je me raccroche à la douleur pour reprendre pied. Personne ne va paniquer. Personne ne va supplier. Mets-toi ça dans le crâne. Il me faut quelques respirations profondes. Le goût du sang sur ma langue. Mais petit à petit, je sens mon cœur s'assagir dans ma poitrine. Ensuite, je ferme les yeux parce que, logique ou non, ça m'aide à supporter l'obscurité. Lentement, mon dernier souvenir me revient. Je me réveille dans ma chambre, une silhouette menaçante sur le pas de la porte, puis une vapeur dans l'air. Du chloroforme, j'imagine, ou un autre narcotique en aérosol. On m'a droguée, et ensuite... une impression de mouvement. Je voulais me réveiller, mais je n'y arrivais pas. On m'a amenée ici. Dieu sait où. Aussitôt, je suis consternée. Pas pour moi, mais je revois le visage de ma mère. Cette mère qui m'a fait des muffins, qui m'a serré fort dans ses bras en me suppliant de mieux prendre soin de moi. Elle m'aime tellement. Et voilà que j'ai disparu et que je lui ai encore une fois brisé le cœur. Parce que je suis déjà relativement certaine que la personne qui a forcé trois serrures pour s'introduire dans mon appartement et qui, accessoirement, a préparé cette chambre et l'a équipée de menottes au bout d'une chaîne, n'est pas le premier lourdeau venu. Je n'ai plus en face de moi le loser arrogant que j'ai cramé dans son garage, ni les numéros amateurs qui l'avaient précédé. Là, c'est autre chose. C'est pire. Un adversaire redoutable. Et je regrette un instant de ne pas avoir eu le courage de dire à Samuel tout ce qui s'était passé il y a 5 ans. Mais il y a des secrets que toutes les anciennes victimes gardent pour elles. Je suis sans doute sur le point de payer le mien. Tout comme Stacy Summers a payé. Je m'endors. Je ne voudrais pas, mais c'est irrépressible. Les derniers effets du sédatif, peut-être même une habitude prise il y a des années, quand je n'avais rien de mieux à faire pendant des heures, des jours, des semaines. Se battre ou fuir, d'accord. Mais ficelé comme je le suis sur un matelas, je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Alors le sommeil devient une manière de fuite, un répit momentané pour mon système limbique surmené. Toute cette adrénaline, ce stress, cette peur, et nulle part où aller, rien d'autre à faire que d'attendre. Attendre, attendre, attendre. En souhaitant que mes yeux s'habituent à l'obscurité. que ces ténèbres uniformément noires deviennent moins absolues. Au bout d'un moment, je renonce à essayer de voir et je me concentre sur le sens du toucher. Timidement, je fais courir mes doigts sur le matelas. J'en détermine la taille. Un matelas simple, de largeur classique. Je sens les ourlets le long des bords. Je prends conscience d'une légère odeur de moisie. Il est mince sous moi. Sans doute une vieillerie en sale état. Peut-être même qu'on s'en était débarrassé à un coin de rue et que mon hôte l'a ramassé précisément dans ce but. Il n'est pas particulièrement confortable, ni moelleux ou rassurant. Mais son existence me plaît. C'est une source de fils et de rembourrage, peut-être même de ressorts métalliques. C'est un outil et j'en ferai bon usage. Ensuite, je tâte le vêtement qui me couvre désormais. Je m'étais couchée en vieux t-shirt et caleçon d'homme à carreaux. Et voilà que je porte un court déshabillé en satin, avec de la dentelle à l'encolure et à la base. Il m'a changé. Pendant que j'étais inconsciente, il m'a retiré ma tenue de nuit confortable pour la remplacer par cette version plus féminine, plus sexy. Je pourrais me sentir insultée et bafouée par ce geste, mais j'en reste surtout perplexe. La plupart des sadiques sexuels laissent leurs victimes nues. Facilité d'accès, surcroît d'humiliation, comme vous voudrez. Ou alors ils affublent leur malheureuse proie de divers accoutrements ou gadgets sadomaso qui satisfont leurs fantasmes. Mais ça, une nuisette en satin, ça témoigne d'autre chose. C'est le genre de petites attentions dont je devine déjà qu'elles ne vont pas me plaire. Jacob m'offrait rarement de jolies chemises de nuit ou quoi que ce soit d'autre que des vêtements pratiques. J'étais sa chose. Qui irait se mettre en frais pour sa table basse? Cet homme, ce nouveau prédateur est un monstre. Je répète ce mot dans ma tête. J'essaye d'en éprouver toute la force. Un monstre, un mutant et une aberration. En deçà de l'humanité. Rien qui vaille la peine de s'inquiéter. Mais je me mens à moi-même. Parce que je sens déjà les menottes métalliques me mordre la peau. Et lorsque je tire sur mes poignets pour détendre mes bras, je suis terriblement consciente du bruit de la chaîne qui se déroule au-dessus de moi. Ça suffit. Je m'assois. Je sors les jambes du matelas et pose les pieds par terre. Je me rappelle que c'est déjà la plus de liberté de mouvement que je n'en avais avec Jacob. La vache, toute une pièce rien qu'à moi, j'en aurais presque le vertige. La nuit est tout de même infinie, oppressante. Je fais timidement un premier pas. Un deuxième, trois, quatre. La pièce est plus grande que je ne m'y attendais. Je n'ai pas encore atteint le mur. Puis mon pied rencontre un objet. Un récipient en plastique qui se renverse à grand bruit. Je me baisse pour le tâter du bout des doigts, mais je sais déjà ce que j'ai trouvé. Un seau. Les latrines préférées des kidnappeurs et des sadiques du monde entier. Bien sûr. Derrière le seau, je découvre un mur. En placo. Ce qui me surprend. Pour une raison ou une autre, je m'attendais à des parpaings, ou peut-être à du méchant lambris. Mais non, le mur est lisse et nu. Du placo, comme dans une vraie pièce, dans une vraie maison. Ça expliquerait aussi la fine moquette sous mes pieds. Mais si je suis réellement dans une maison? Je m'arrête pour tendre l'oreille. J'essaye de percevoir des bruits de circulation dans la rue, ou peut-être des pas qui résonneraient au loin au-dessus de moi. Au début, rien. Isolation phonique, pour faire la paire avec la couche de peinture noire. Mais ensuite, légère et régulière, je l'entends. Une respiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Il y a quelqu'un d'autre dans cette pièce. Je ne suis pas seule. J'ai un mouvement de recul. C'est plus fort que moi. Puis, par réflexe, j'attrape le seau en plastique et je le serre sur ma poitrine. Pour m'en faire quoi? Une arme ou un bouclier? Je ne réfléchis plus. Je voudrais bien, mais malgré mon expérience, mon entraînement et mes fanfaronnades, mon pouce est de nouveau emballé et je tremble sur mes jambes. Tandis qu'à l'autre bout de la pièce, à disons 2 ou 3 mètres de moi, on respire. Inspiration. Expiration. Il est là, à m'observer. Il attend que je panique, que je perde les pédales, que j'implore sa pitié. ou bien ils profitent juste du spectacle. D'un seul coup, ça me fout en rogne. Peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il croit pouvoir me faire. Comparé à Jacob Ness, Monsieur Nuisette en soi, Monsieur Respiration obscène, n'est qu'un faire-valoir. Un phénomène de foire. Ce n'est pas parce qu'il est entré dans mon appartement fermé à triple tour qu'il m'a drogué et emmené par un numéro de prestidigitation dans un donjon noir comme l'enfer. Je refuse d'avoir peur de lui. Alors je repense à mon premier rendez-vous avec Samuel, le lendemain de ma sortie d'hôpital.
Vous vous souvenez de ce que vous avez fait pour survivre, Flora? Toutes vos rébellions, vos actes de soumission, vos mensonges, vos compromissions.
Je hoche lentement la tête.
Très bien. Ne les oubliez pas. Mais n'ayez pas de regrets.
Acceptez.
Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez en ce moment, mais vous êtes forte, Flora. Vous avez survécu. Ne laissez personne vous enlever ça. Et ne vous l'enlevez pas à vous-même. Vous êtes solide. 472 jours plus tard, vous êtes encore là. Et c'est grâce à vous. Rien que pour ça, vous ne devriez plus jamais avoir peur.
Je repose le seau. Je me concentre sur le son de sa respiration régulière. Petit à petit, je calque la mienne sur la sienne, jusqu'à inspirer quand il inspire, expirer quand il expire. Inspiration, expiration. Deux respirations jumelles, parfaitement synchronisées. J'ai déjà compris que dans ce bras de fer initial, le premier qui parle a perdu. Il va bouger, j'en suis certaine. Personne ne se donne autant de mal pour le simple plaisir d'observer. Alors je tourne les yeux dans la direction de sa respiration. Et je le regarde de mon air le plus sévère et le plus provoquant. Vas-y, le monstre. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Inspiration. Expiration. Jamais je n'ai entendu une respiration aussi régulière, qui jamais ne s'accélère sous le coup de l'excitation. Jamais ne prend un temps de retard sous le coup d'un étonnement. Seulement. Inspiration. Expiration. Comme s'il n'en avait vraiment rien à faire que je sois debout et que je le défie du regard. Comme s'il avait la pleine et entière maîtrise de la situation. Et qu'il avait tout son temps. Ma propre respiration se dérègle. Bien malgré moi. Ça me fait horreur de lui donner satisfaction. Mais ce rythme monotone me tape sur le système. Personne ne respire aussi régulièrement. Personne, dans une telle situation, ne peut rester aussi calme. Alors, d'un seul coup, j'entrevois la vérité. Et je commence à frémir de peur. Non, je ne veux pas. Je vous en supplie. C'est plus fort que moi. Maintenant que l'idée m'a traversé l'esprit, il faut que je sache. J'avance de quelques pas. C'est mon orteil qui rencontre le premier un obstacle. Je me fige et je tends de nouveau l'oreille. La respiration est beaucoup plus proche à présent, mais toujours aussi régulière. Inspiration, expiration. Je tends les bras en m'ordonnant d'être forte. Je me souviens que j'ai déjà vécu le pire. Je peux tout affronter. Tout de même, quand mes doigts rencontrent la première arête d'une boîte en forme de cercueil, de l'intérieur monte toujours le bruit régulier de la respiration de son occupante. Inspiration, expiration, dormir. Que faire d'autre quand on est enfermé dans une caisse? Je ferme les yeux. Ça ne m'aide pas. J'entends toujours sa respiration. Ma compagne de malheur, sa précédente victime. Inspiration. Expiration. Oh non, non, non. Je n'ai pas peur, dis-je tout bas. Mais dans ma tête, je revois Jacob et il est encore une fois mort de rire.